20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Entre Irak, Iran, Syrie et Turquie, les Kurdes sont incontestablement sur le devant de la scène, notamment engagés en Syrie dans la chute de Baghouz, à quelques kilomètres de la cité mésopotamienne de Mari et de celle de Kerbet Edinieh, de l'autre côté de la frontière irakienne. Ce soir, dans le magazine d'archéologie de France Culture, nous évoquerons le territoire kurde, celui libéré depuis longtemps des exactions du parti basse de Saddam Hussein, le Kurdistan autonome qui s'étend au nord de l'Irak. Curieusement, des fouilles y sont engagées depuis plusieurs années. Et sur le terrain, mon invité dirige une mission archéologique française, Aline Tenu. Bonsoir.
Bonsoir.
Chargée de recherche au CNRS, vous travaillez dans l'équipe abritant le plus grand nombre d'archéologues œuvrant de par le monde au cœur du Kurdistan. Vous fouillez actuellement une cité mésopotamienne datée du 3e millénaire avant notre ère. À l'une tenue, si l'on a beaucoup parlé de Mossoul, de sa destruction, on ne sait quasiment rien du Kurdistan autonome.
En effet, c'est vrai, le Kurdistan autonome, c'est une région qui a conquis son autonomie au début des années 90, en 1991, et qui appartient maintenant encore à l'Irak.
Et il y a des fouilles en ce moment ?
Oui, beaucoup. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une région passionnante, mais aussi parce que pendant très longtemps, c'est une région auquel nous n'avions pas du tout accès, nous archéologues. Et il y avait donc une véritable curiosité à aller voir en fait ce qui se passait dans cette région dont on entendait parler, mais dans lequel on n'avait pas le droit d'aller.
C'est-à-dire que du temps de Saddam Hussein, le Kurdistan était une zone un peu interdite, va-t-on dire, même carrément interdite.
Carrément interdite.
Carrément interdite, j'ai souvenir en 83 d'y être passé. Et en revanche, les archéologues, eux, fouillaient dans le reste de l'Irak ?
Tout à fait, c'était exactement, quasiment une situation inverse à ce qu'on a connu pendant un moment, à savoir que maintenant on peut facilement fouiller au Kurdistan et le reste de l'Irak est encore un peu plus compliqué. Avant, c'était l'inverse, on pouvait fouiller dans le reste de l'Irak, mais le Kurdistan était interdit.
Dans sa totalité, l'Irak s'ouvre aujourd'hui aux fouilles, cela va même jusqu'au sud du pays ?
Oui. C'est une reprise lente, mais c'est une reprise réelle de l'archéologie, donc sur des sites dont on a tous entendu parler, le fameux Our en Caldé des mots fléchés, par exemple. C'est un site sur lequel les fouilles recommencent et d'ici quelques années, on peut imaginer qu'il y aura des nouvelles données extrêmement nombreuses sur ces sites sur lesquels on a arrêté de travailler il y a maintenant 30 ans.
Qui travaille en Irak ? Quelles sont les missions archéologiques américaines, françaises ?
Américaines, italiennes, allemandes, française, doucement. C'est un élan général, mais qui prend son temps, encore pour des raisons de sécurité. Et surtout, on ne fouille plus de la même manière qu'on a fouillé jusqu'à présent. Et en particulier, beaucoup de programmes sont des programmes de prospection. Avant les fouilles, il s'agit de faire un inventaire des sites, à la fois pour les repérer et puis aussi pour évaluer leur état de conservation afin de décider si oui ou non on peut y entreprendre des fouilles.
Votre terrain est une grande plaine bordée par le Zagros, avec des affluents du Tigre, notamment la vallée de la Diyala, où il y a de très nombreux sites.
Oui, la vallée de la Diyala, c'est donc la Diyala, c'est un affluent important du Tigre, et on a beaucoup fouillé dans la Diyala, notamment entre les deux guerres, dans les années 30. Et c'est justement grâce aussi de la Diyala qu'on a pu établir pour la Mésopotamie la chronologie du 3e millénaire. Alors maintenant, on revient dessus, on l'affine, on la perfectionne, mais les fondements proviennent donc de ces sites de la Diyala.
Du temps de la délégation archéologique française en Irak, qui était dirigée par Jean-Louis Haut, j'ai souvenir de fouilles dans la Diyala, celle par exemple de Ratrazim, qui avait été un site important.
Oui, oui, ce sont des programmes qui avaient été associés donc à des fouilles de sauvetage. Et il y a eu plusieurs missions, notamment des missions françaises. Donc celle à laquelle vous faites référence, c'est celle qui était dirigée par Jean-Daniel Forest. Et là encore, ça a été des données assez nouvelles, avec en particulier la découverte de forteresses rondes qui sont extrêmement intéressantes et qui datent, elles aussi, du troisième millénaire.
Votre mission est une des rares missions françaises à s'être implantée donc au Kurdistan, sous la direction d'ailleurs de Christine Kepinski. J'imagine que tout a commencé par une prospection.
Alors oui, mais en fait, ça a même commencé avant. Ça a commencé en septembre 2010, quand Christine Kepinski a été contactée par le ministère turc des municipalités et du tourisme pour contribuer à la carte archéologique. Donc nous sommes partis toutes les deux pendant 10 jours, un peu à l'aventure. On avait un billet d'avion, une chambre d'hôtel pour la première nuit, puis après on s'est dit on verra. Et on a eu la chance donc de rencontrer les autorités locales, en particulier à Souleymaniye. On a reçu un excellent accueil et Christine Kepinski a donc décidé de déposer un dossier à la commission des fouilles pour lancer un nouveau programme. Et ce nouveau programme a commencé en 2011 par une prospection.
On prospecte comment ?
Alors en fait, il y a beaucoup de manières différentes de prospecter. Là, c'était une prospection qui, vraiment, on démarrait, on n'avait aucune idée de rien. Donc on était accompagné évidemment par des archéologues du département des Antiquités de Souleymaniye, qui nous ont guidés sur un certain nombre de sites qu'eux-mêmes connaissaient dans leur service. Et notre rôle, c'était de ramasser les tessons, et puis à partir de ces tessons, d'estimer la datation des sites. Est-ce que c'est une longue séquence d'occupation? Est-ce que c'est un site qui a été occupé peu de temps ou très longtemps? Quelles sont les périodes? Et c'est comme ça, donc, progressivement, la recherche avance. Ce qui était très déconcertant, c'est qu'il y avait beaucoup de tessons qu'on n'avait jamais vus ni l'une ni l'autre.
C'est un territoire très riche, aussi riche par exemple que ce que l'on imagine de la Mésopotamie, avec ces gigantesques buttes archéologiques que l'on appelle des tels.
Alors c'est très riche, mais c'est très différent. En fait, dans la plaine mésopotamienne, il y a de très gros sites. Alors évidemment, les plus gros, personne ne peut rivaliser pratiquement, c'est Ninive qui est immense, on l'a évoqué, ou Babylone qui là, bat tous les records. Ici, ce sont des sites qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes, mais c'est un habitat qui est très dense. Il y a beaucoup de sites, mais des sites de dimensions relativement modestes, surtout dans la région où nous sommes, autour de Souleymaniye.
À quelques enjambées de Souleymaniye, vos recherches portent sur une cité mésopotamienne, Kunarra. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette centrée pendant des années sur ce site ? Car c'est des années que vous allez fouiller cette ville.
J'espère. C'est un peu un pari, choisir un site archéologique dont personne n'a jamais entendu parler. Il y a beaucoup de facteurs qui se croisent pour choisir un site archéologique. Il y a des conditions proprement matérielles, de logistique. Et là, c'était pratique puisque nous sommes près de Souleymaniye. Ça joue évidemment quand on monte une opération archéologique. Après, évidemment, l'essentiel, ce sont les choix scientifiques. Ce qui était important, c'est que Kunarra, c'est un des plus gros sites qu'on ait prospecté. Il fait à peu près 10 hectares. Par ailleurs, il n'y avait pas ou peu de niveaux d'époque médiévale. Alors le médiéval, le Moyen-Âge, c'est une période absolument passionnante. Mais comme ni Christine Kepinski ni moi-même n'en sommes spécialistes, on s'est dit on va passer à côté des problématiques intéressantes. Et en revanche, il y avait une longue séquence stratigraphique d'après les tessons, depuis le chalcolithique, c'est-à-dire à peu près depuis le 4e millénaire, jusqu'à l'âge du fer, avec de l'assyrien, du néo-assyrien. Et c'est pour ça qu'on a choisi Kunarra.
Votre ville est à côté de deux autres grands centres très importants, Chamchénal et Bakrawa. C'est bien ça ?
Oui, on n'est pas seul, donc, même si on n'est pas très près les uns des autres. Donc Chemchemal, c'est beaucoup plus près de la Mésopotamie, alors que Bakrawa, c'est un site qui se trouve plutôt orienté vers l'Iran, il est plus proche de l'Iran. Bakrawa, c'est un des gros sites de la région, il est exploré par une mission archéologique allemande, dirigée par un collègue de l'université de Heidelberg, Peter Miglus.
Kunarra, votre ville, était-elle connue par les textes ou par des prospections archéologiques ?
Pas du tout.
Vous avez découvert la cité ?
Oui, alors les archéologues locaux connaissaient l'existence du site parce qu'on le voit dans le territoire, on le voit dans le paysage. Donc ils le connaissaient, c'est pour ça qu'ils nous ont amenés à Kunarra. Mais il y avait quelques tessons qui avaient été ramassés, mais en fait personne n'en avait jamais entendu parler, personne ne s'était intéressé à Kunarra, ce sont les premières fouilles.
Aujourd'hui, comment se présente ce site ? C'est une sorte de gros monticule ?
Alors c'est un site qui se trouve donc sur un des bras du Tanjaro, qui est un affluent de la Diyala, qui lui-même est un affluent du Tigre. C'est un petit cours d'eau. Il comporte une ville haute vers l'ouest et une ville basse vers l'est. Et il a donc une forme de un peu bossu, avec donc ces deux espaces assez clairement visibles dans le paysage, d'autant qu'une route asphaltée moderne a coupé le site en deux.
10 hectares, c'est important pour une cité mésopotamienne ?
C'est difficile de comparer. C'est plutôt petit, mais dans la région, c'est un des plus grands. Pour vous donner des exemples, Ninive, alors c'est beaucoup plus récent, c'est 775 hectares, et Babylone, que personne ne peut battre, c'est 976 hectares.
Quel est le modèle de ce genre de ville ? Vous me parliez de ville haute, de ville basse.
En fait, c'est dur de vous répondre, parce que pour les villes de la région, on n'a aucune fouille. Donc, on découvre tout au fur et à mesure. On n'a pas vraiment de modèle. On suppose qu'il y a une organisation, effectivement, avec des bâtiments en ville haute, dont on supposait, en tout cas quand on a commencé, qu'il y aurait les bâtiments publics, par exemple, et puis une ville basse dont on supposait qu'elle abriterait plutôt les habitations domestiques. Et les fouilles ont montré, comme c'est très souvent le cas, que nous nous trompions complètement.
Ce genre de ville haute, de ville basse, c'est aussi le cas dans toutes les grandes cités mésopotamiennes ?
Ça dépend des périodes, mais c'est un modèle assez courant, en effet, avec la ville haute et les bâtiments publics, la ville basse avec les habitations.
Ce que vous percevez, tout d'abord, dans votre cité, ce sont des activités artisanales ?
Oui, qui sont en particulier liées au fait que ce qu'on a découvert à Kunara, et ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, puisque vous le rappelez, c'est un schéma ville haute-ville basse assez classique, avec les gros bâtiments sur la ville haute et puis les maisons dans la ville basse, on a été complètement déstabilisé parce qu'en fait, on a quasiment que des bâtiments publics, des gros bâtiments, des gros édifices, pas de maisons, une seule mais qui est complètement atypique. Et donc dans ces bâtiments, il semble y avoir des activités artisanales. En particulier dans l'un d'eux, on a découvert des moules qui ont servi à fondre des lames en métal. Alors à l'époque, le métal, c'est le bronze, hein, c'est donc un alliage de cuivre et d'étain. Ce sont des minerais qui ne sont pas présents localement, donc qui viennent de loin. Ça c'est sûr. Ça ouvre beaucoup de perspectives, ces découvertes, d'abord sur les échanges à long terme, à longue distance, à Kunara, et aussi sur le contrôle de ces échanges. Parce que une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que n'importe qui pouvait faire venir du cuivre et l'étain, ou est-ce que c'est un monopole contrôlé par l'autorité locale ? Et ça, c'est une des questions que l'on se pose suite à la découverte notamment de ces moules.
Vos maisons ou vos centres administratifs, c'est bien sûr en terre crue ?
Eh bien oui, c'est de la terre crue, mais là aussi, surprise, ça n'est pas de la brique crue. Tous ceux qui ont été formés en Mésopotamie ont fouillé de la brique crue, ont été horriblement angoissés à l'idée de ne pas reconnaître la brique crue.
C'est une vraie angoisse d'archéologue.
C'est une vraie angoisse. Je pense qu'on l'a tous vécu les premières fouilles en disant « je vais passer à travers le mur, je vais rien voir, je vais me ridiculiser ». En fait, ça a été très compliqué au début quand on a ouvert la fouille à Kunara, parce que ce qu'on a à Kunara, c'est pas de la brique crue, ce sont des techniques de terre massive. C'est-à-dire soit du pisé, soit de la bauge. On est encore en train de discuter pour l'identification exacte de ces techniques. À chaque fois, il y a un soubassement de pierre. Alors le soubassement de pierre à Kunara, parfois, il fait 2,80 m d'épaisseur. Donc là, même si c'est votre premier jour de fouille sur le premier terrain de votre vie, vous ne pourrez pas le rater. La superstructure, elle, c'est beaucoup plus compliqué parce que la brique crue, on voit les briques. La bauge ou le pisé, il n'y a pas de limite, donc on les voit pas. Ça a été une angoisse terrible parce qu'on ne voyait pas les murs au début et on s'aperçoit maintenant que il y a des techniques très spéciales qui ont été développées à Kunara, des techniques très élaborées, hein, c'est très solide encore maintenant, mais on a été très déstabilisés et tous nos collègues du Kurdistan quasiment ont le même problème que nous. Donc maintenant on est tous rassurés, on n'est pas passé à côté de nos murs en brique crue, c'est juste que la brique crue n'est pas un matériau très utilisé au Kurdistan apparemment.
Donc ce serait une technique régionale ?
C'est lié
peut-être au troisième millénaire.
C'est ce qu'on pense. Ça fait très régional, ça fait pas mésopotamien de pas mettre de briques crues.
Est-ce que l'on peut penser que cette cité pourrait être une ville neuve ? C'est un phénomène très important. Au cours du troisième millénaire, on a eu la création de vraies villes décidées par un pouvoir politique.
Alors c'est une bonne question parce que ce qu'on voit à Kunara, ce sont des programmes d'urbanisme à très grande échelle. donc à un moment en particulier pour un des bâtiments de la ville basse. Ils ont sans doute arasé les superstructures anciennes et fait quelque chose de très grand, qui donc est un vrai programme urbain. En revanche, on a en dessous des niveaux qui sont plus anciens. Ça, on en est sûr, d'abord parce qu'on a des tessons plus anciens et parce qu'on a trouvé le sommet de ces structures sur un des chantiers. Pour l'instant, la date de ces niveaux anciens, elle est complètement inconnue, peut-être milieu du troisième millénaire. Donc il y a quelque chose en dessous, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de plus ancien qu'il n'y a pas eu un vrai programme urbain avec une volonté de créer quelque chose de nouveau.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Aline Tenu, dans votre cité, vous avez aussi trouvé des traces d'incendie ?
Oui, ça a été un peu une surprise parce qu'au début, les traces d'incendie étaient très limitées, en particulier un chantier de la ville basse. Et notre hypothèse, c'était que c'était un accident. Quelqu'un avait mis le feu, comme ça arrive. Depuis 2018, donc c'est tout récent, en fait, on a des traces d'incendie sur tous les chantiers de la ville basse et aussi sur la ville haute. Donc, tous les chantiers qui semblent avoir fonctionné en même, enfin, avec des niveaux de la même période ont visiblement tous été détruits à un moment donné par un incendie. C'est difficile d'interpréter ces traces d'incendie. Comme c'est à l'échelle du site, l'hypothèse d'un accident est moins vraisemblable. Celle d'un événement militaire, évidemment, paraît plus convaincante. C'est d'autant plus convaincant que grâce au texte mésopotamien, on sait qu'il y a eu des campagnes militaires.
L'étude de la faune est très intéressante, curieusement, pour connaître la vie quotidienne donc de ces populations du Kurdistan du troisième millénaire. Vous avez de l'âne, ça c'est tout à fait classique, beaucoup plus étonnant, vous avez du cheval et surtout de la poule.
Oui, la poule, c'est un animal exceptionnel. Alors, évidemment, ça nous fait un peu bizarre, mais la poule arrive en Mésopotamie, à peu près au troisième millénaire, enfin à la fin du troisième millénaire.
Elle arrive de l'Asie du Sud-Est.
Elle arrive de l'Asie du Sud-Est. La poule de Kunara, c'est sans doute une des plus anciennes poules dont on ait une trace archéologique. Donc elle est importante, même si c'est un os de poule.
Le cheval peut-être un statut particulier quand même.
Oui, on a aussi du cheval. Là aussi, c'est un animal qui est rare à l'époque. Alors il y a des équidés, il y a des ânes, hein, ça c'est connu, mais on pense que le cheval est vraiment introduit en Mésopotamie à cette époque, hein, toute fin du troisième millénaire. Et le cheval, on en a dans certains bâtiments, pas dans d'autres. Donc, il est possible que là, il y ait quelque chose d'un peu différent dans l'utilisation du cheval par rapport à l'âne. Une monture de prestige, évidemment, n'est pas du tout à exclure.
Il y a aussi la présence de grands félins. De grands félins et notamment un lion.
Oui, on était très contents d'avoir un lion à Kunara quand Michael Seigle, qui est donc l'archéozoologue, nous a dit « Ah, mais vous savez, ça, c'est du lion ». On était tous très excités. D'abord parce qu'un lion, c'est un animal magnifique. Aussi parce que le lion n'est pas, sans doute pas, originaire de Kunara. On pense que le lion vient plutôt de la plaine. Et la question qu'on se pose, donc c'est un os de la patte. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'animal est arrivé vivant? Est-ce que ça peut être, par exemple, un cadeau? Un animal qu'on a offert en cadeau? On sait que échanger des animaux exotiques et dangereux, c'est quelque chose de courant en Mésopotamie, même si c'est un peu plus tard.
Un cadeau d'ambassade.
Est-ce que on a offert une dépouille? Mais là, ça marche moins bien, comme c'est la patte. La question est ouverte sur le lion.
En tout cas, le lion, c'est bien sûr les fameux bas-reliefs des chasses royales.
Oui.
Il suffit d'aller au Louvre pour voir ça.
Absolument. C'est tout de suite ce à quoi on a pensé. Chasser le lion, évidemment, ce n'est pas chasser un animal pour se nourrir dans son quotidien. C'est un animal dangereux. On n'imagine pas qu'on va chasser le lion, qu'on décide un matin d'aller chasser le lion. C'est quelque chose de prestigieux. C'est sans doute associé à des activités de prestige.
Qu'est-ce que vous avez d'autre comme faune?
Alors, on a de l'ours, on a de la panthère. Alors là, ce sont des animaux qui sont des animaux plutôt de montagne. On a de la gazelle, un animal qui vit plutôt dans la steppe. On a des renards, notamment un renard qui est le renard famélique, qui est une espèce de renard local. Et puis, on a aussi des coquillages marins du Golfe. Et ce qui est intéressant dans ces coquillages marins, donc il y a deux espèces, c'est que ce sont des coquillages qui ont été ramassés sur une plage. Donc, Le golfe Persique, c'est loin, hein, c'est à 600 km à vol d'oiseau. Donc, ce sont des coquillages qui ont été ramassés par quelqu'un et qui ont été ramenés à Kunar. Donc, ça n'est pas alimentaire, hein, c'est un souvenir peut-être. En tout cas, c'est ce à quoi on a envie de croire. C'est quelqu'un qui a ramené un souvenir de la plage.
En tout cas, les coquillages du golfe ou de mer d'Arabie, il y en a énormément dans toutes les tombes d'Our, par exemple. Il y avait un véritable commerce, non ?
Oui, mais Our, c'est au bord de la mer à l'époque. Nous, on est loin de la mer. Mais tout ça, en fait, Michael Seigle est venu pour la première fois en octobre 2018. Donc la faune, ça commence à peine. Et c'est extraordinaire, la faune, parce que d'un coup, l'environnement de Kunara, ce peuple d'animaux...
Improbable, dont de la hyène. Aline Tenu, vous avez aussi de superbes céramiques avec des motifs animaliers zoomorphes.
Oui, là encore, des choses assez étonnantes. On a des becs verseurs en tête de bélier. Et puis, on a des décors de scorpions, des décors de serpents. Alors, toute la céramique est étudiée par Cécile Verdelet. Alors, ces motifs ne sont pas uniques en soi, hein, ce sont des choses qui sont connues ailleurs en Mésopotamie, mais on en a beaucoup dans des contextes très particuliers. Et surtout, ce que Cécile Verdelet a repéré, c'est que scorpions et serpents sont associés sur la même céramique. Ça, c'est plutôt inhabituel. Et comme par hasard, ces céramiques proviennent de contextes où il y a des installations un peu intrigantes. Donc, c'est sans doute pas un hasard.
Et ces installations ?
Alors, ces installations...
Qu'est-ce que cela pourrait être ?
Ce sont des cupules. Alors, c'est pas du tout spectaculaire. Mais ces cupules, elles ressemblent à des petites coupes qui ont été utilisées pour des libations, pour des cérémonies. C'est une hypothèse, bien sûr. Alors, je sais qu'on accuse toujours les archéologues de dire que c'est cultuel quand ils comprennent pas ce qu'ils fouillent. Et c'est pas complètement
faux. On en parle souvent.
Voilà, on l'entend souvent. Mais là, on a des indices. On a ces cupules qui sont curieuses, ce matériel céramique qui est atypique. Ça nous intrigue beaucoup.
En tout cas, durant votre dernière campagne d'automne, vous avez trouvé sur votre chantier E une tablette. Qu'est-ce que nous raconte cette tablette ?
Alors, cette tablette, c'est un texte administratif. Qui était suffisamment bien conservé pour que l'épigraphiste du site, Philippe Clancier, puisse, à partir des photos qu'on avait prises, proposer une première lecture de ce texte qui enregistre des quantités de grains. Enfin, de grains. Le mot est cassé, mais on suppose que c'est du grain parce que ce sont de très grosses quantités. Et ce qui nous a énormément étonnés, alors lui, évidemment, premier chef, c'est que ces quantités sont exprimées dans une unité de mesure qui est documenté pour la première fois, c'est le gour du Choubartou.
Ça représente quoi, le gour du Choubartou ? Alors, parce que le gour, on le connaît.
Le gour, on le connaît. On connaît plein de gours, notamment le grand gour de l'époque, le gour le plus utilisé, qui est le gour d'Akkad. C'est à peu près 300 litres. Le gour du Choubartou, on suppose que c'est une grosse quantité, mais donc on suppose que c'est à peu près 300 litres, mais si ça se trouve, c'est une variante locale.
Vous avez trouvé une dizaine de tablettes en tout et pour tout. Visiblement, on parle beaucoup de farine dans ces tablettes. Il y aurait plusieurs types de farine. J'ai lu jusqu'à 8 types de farine.
Alors en fait, sur le chantier E, il y a une dizaine de tablettes, mais il y a un autre chantier sur lequel on a trouvé une centaine de tablettes. Ces tablettes, elles appartiennent à une autre archive, à une autre administration, à un autre bureau. Et elles enregistrent effectivement des entrées et des sorties de farine, 8 types, qui sont à la fois différents parce que c'est tantôt une céréale différente, tantôt une qualité différente. Donc on a un enregistrement très précis de ces différentes qualités de farine qui entrent et qui sortent de l'administration à Kunara.
Ces tablettes sont brûlées, comment faites-vous pour les conserver ?
C'est un défi de tous les jours, d'abord il faut les trouver. Et alors on imagine toujours que les tablettes c'est facile et que l'archéologue souffle sur sa tablette et voit les signes qui se dessinent. Nous, c'est pas du tout ça. Elles sont très très mal conservées. C'est un travail qui est très long. On les prélève sur le terrain parfois en motte, c'est-à-dire avec le sédiment autour. On les emmène donc au département des antiquités de Souleymaniyeh où elles sont étudiées plus tard au cours d'une mission d'étude, donc par les épigraphistes. Une fois qu'elles ont aussi un peu séché, qu'elles se sont un peu stabilisées, Et fouiller les tablettes à Kunara, c'est très difficile.
Donc vous n'avez pas l'information en direct avec l'épigraphiste qui pourrait vous dire « vous êtes dans tel bâtiment ».
Alors parfois, si, on a eu beaucoup de chance pour la première tablette. La première tablette était assez bien conservée, donc on a pu la nettoyer, envoyer les photos à l'épigraphiste, donc à Philippe Clancier, qui tout de suite nous a dit « c'est de l'administratif », qui nous a donné une date et un premier diagnostic, si on peut dire. Mais à part quelques tablettes exceptionnelles, comme celle du Gourdou Choubartou d'octobre dernier, en général, non, on doit attendre la mission de printemps.
Aline Tenu, un nom revient deux fois dans une tablette, Gagaya. L'onomastique, l'étude des noms, est un vrai sujet de recherche.
Oui. L'étude des noms, c'est passionnant. On sait que dans les tablettes à Kunara, il y a des noms akkadiens, des noms en sumérien, donc c'est cette langue isolée du 3e millénaire en Mésopotamie, on en a un. Et puis on a des noms complètement atypiques, le fameux Gagaya, dont on se demande si ce sont pas des noms locaux, des noms portés par les gens et qui vivaient à Kunara.
Et pour autant, est-ce que vous connaissez le nom de votre site, de votre ville de Kunara ?
Non, mais on va le trouver.
Ça, c'est un vrai sujet.
Oui.
Vous pensez que ça peut être mentionné ?
Oui, c'est possible. C'est possible que ce soit mentionné, que ça fasse partie de ces toponymes qui apparaissent dans des listes de villes ou dans les inscriptions royales des souverains mésopotamiens qui ont fait campagne dans la région. Mais on va trouver.
Le troisième millénaire, c'est un très très grand moment pour la Mésopotamie. Quels sont les éléments visiblement troisième millénaire que vous avez sur votre terrain ?
Le premier, celui qu'on voit tout de suite quand on fouille, c'est la poterie. La poterie, ce sont des quantités énormes. Hein, je ne sais pas combien de kilos, de tonnes presque de poterie on manipule tous les ans. La poterie, c'est le premier marqueur. Ensuite, il y a le matériel lithique. Donc, on a la chance d'avoir une lithicienne sur le site, Florine Marchand, qui étudie donc ce matériau qui parfois est un peu ingrat, hein, il faut bien le reconnaître, mais qui apporte des indications très précises sur les utilisations, notamment sur l'outillage et sur la datation. Ensuite, il y a les scellements. Là, c'est un autre spécialiste, Nordine Oraghi, qui s'en occupe. Là, on a des sceaux, en particulier des empreintes de sceaux et des scènes que l'on peut facilement dater. Et puis, il y a les tablettes. Et à la fin, il y a le carbone 14 qui donne le nom à votre émission.
Les tablettes mentionnent un personnage important, semble-t-il, qui devait gérer peut-être l'aspect politique.
Oui, c'est une des grandes découvertes. Il y a ce qu'on appelle un Nancy. C'est son titre. Le titre d'Annecy, c'est un titre un peu ambigu parce qu'il peut soit désigner un roi, soit désigner un gouverneur. Mais en général, quand il s'agit d'un gouverneur, c'est un homme qui agit pour le compte d'un autre, mais qui est issu d'une famille royale qui a été vaincue.
Donc on pourrait être sur un centre politique.
Oui, c'est quasi sûr.
À la période concernée, c'est-à-dire autour de 2200-2000 avant notre ère, la région de Souleymaniye semble s'intégrer dans une grande région Luluboum ou Luluboum. Qu'est-ce que l'on sait sur cette région ?
On sait à la fois beaucoup de choses et très peu de choses, comme souvent dans les études mésopotamiennes. En fait, la grande célébrité de cette région, c'est qu'elle a été l'objet de campagnes militaires nombreuses par les rois mésopotamiens qui voulaient s'y installer, ou qui du moins voulaient la contrôler, parce que c'est là que passent les routes vers l'Iran. Et en particulier, un souverain d'Akkad, qui s'appelle Naram-Sin, a mené une campagne dans la région, il a vaincu ses habitants, et à la suite de cette victoire, il a érigé une stèle. Cette stèle de victoire, elle est actuellement au Louvre, et on peut aller l'admirer. Elle célèbre la victoire donc de Naram-Sin sur les gens, sans doute de la région de Souleymaniye.
Est-ce que l'on peut penser, par exemple, que votre incendie serait lié donc à cet événement militaire?
C'est tentant. Hein. Alors, on est peut-être un peu tard à Kunara, peut-être un tout petit peu après Naram-Sin, mais il y a un autre grand roi mésopotamien qui a fait des conquêtes, il s'appelle Shulgi. Shulgi, il a fait des campagnes, plusieurs, au moins 8, peut-être 9, et c'est lui, ça serait un bon candidat pour la destruction de Kunara.
Faisons un peu de prospective. Que vous reste-t-il à découvrir? Les temples, les palais, les nécropoles?
Déjà, les maisons des gens. Pour l'instant, on ne sait pas où vivent les gens à Kunara, on ne sait pas où ils sont enterrés non plus, donc on a encore de longues perspectives de recherche devant nous.
Aline Tenu, merci beaucoup. Donc, Carbone 14 était réalisé par Doria Zénine, à la technique Valérie Lavalard, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré à la préhistoire.